6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Et aujourd'hui, les enjeux internationaux analysent la situation économique du Mexique à l'aube, justement, de cette nouvelle présidence américaine. Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Émilie, et notre invité aujourd'hui donc sur le Mexique, Pierre Salama. Alors évidemment, de par sa superficie, quatre fois grand comme la France, sa population 127 millions d'habitants, son histoire, ses richesses naturelles, c'est un pays pétrolier, sa proximité, voire son intimité avec le géant états-unien. Le Mexique présente des caractéristiques propres tout à fait considérables. Il faudrait parler évidemment du système politique, de la tradition de violence, des cartels, des choix économiques. Alors il est peut-être plus intéressant quand même ce matin, dans le contexte actuel, de rappeler les rapports avec le grand voisin, les migrations légales et illégales, les Chicanos, les exportations intensives vers les États-Unis. Le Mexique exporte vers les États-Unis et vers le Canada 83% du total, donc par définition ces exportations. Les effets des délocalisations des entreprises américaines. En plus, comment a été perçue au Mexique la décision du candidat Donald Trump, qui a redit comme président élu sa volonté de faire payer par Mexico la construction d'un nouveau mur à la frontière. Et Donald Trump, en plus, exhorte les sociétés américaines, notamment automobiles, telles Ford ou Fiat Chrysler, à ne pas investir au Mexique, tout en les menaçant de lourdes sanctions. Alors, sur l'ensemble de ces questions, évidemment, Pierre Salama.
Le Mexique, sur 25 ans, se caractérise par une tendance assez marquée à la stagnation économique. C'est le pays parmi les plus grands pays d'Amérique latine qui a connu la croissance la plus faible depuis 25 ans. Ceci dit, depuis quelques années, sa croissance est, à la différence du Brésil, de celle du Brésil et de l'Argentine, est positive, mais elle est faible. Et elle est surtout en deçà des espérances, des espoirs qu'on a pu amener il y a quelques années. Ça, c'est la première grande caractéristique. La seconde, c'est que la productivité du travail croît très, très, très faiblement. Et par contre, il y a des entreprises qui ont un niveau de productivité du travail très élevé, notamment dans le secteur automobile, mais pas seulement, et dans l'aéronautique. Et compte tenu des taux de salaire très faibles, mais extrêmement faibles, qui existent au Mexique comparé à ceux des États-Unis, sur certaines branches, c'est un pays très compétitif.
Alors en même temps, il faut le rappeler, c'est un pays riche, au moins de son pétrole.
Non, il l'était. Il exporte maintenant très peu de son pétrole. Il a très peu investi et les exportations pétrolières correspondent à 10% de la balance commerciale sans plus aujourd'hui. Ceci dit, ce qui est très important aussi à noter, c'est que n'ayant pas investi suffisamment, le Mexique exporte son brut et importe le pétrole raffiné des États-Unis. C'est une situation assez paradoxale, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça lui coûte assez cher, ce pétrole aujourd'hui lui coûte assez cher. Par ailleurs, le pétrole a rapporté 30% de recettes fiscales. Compte tenu de la baisse du prix du pétrole, il y a une crise budgétaire qui est...
Victime indirecte de la décision saoudienne d'il y a deux ans et demi, 2014. Et il n'est pas le seul, d'ailleurs, le Mexique, parce qu'il y a l'Algérie, l'Angola, le Venezuela, etc.
Il est moins dépendant que l'Angola ou que... On n'en est quand même pas là. D'autant qu'ils ont fait une petite réforme fiscale qui leur a permis d'amortir un peu ce déficit. Mais le déficit aujourd'hui, c'est plus de 4,5 points du PIB, le déficit budgétaire.
Alors il y a une chose, Pierre Salama, aussi qui est importante, c'est quand même, pour le non-spécialiste, la violence politique et la culture presque de l'affrontement politique et même de la violence, les bandes, les trafics, les cartels et ainsi de suite. Et d'une certaine façon, cette propension à cultiver cette dimension macabre.
Oui, il y a des traditions sur la mort, le culte de la mort, etc. Ça, c'est assez évident, les squelettes, notamment, lors de la fête des morts. Oui, ça c'est exact. Mais le Mexique n'a pas toujours été aussi violent. Ne serait-ce qu'il y a une trentaine d'années, le taux d'homicide était à peu près le double de celui des États-Unis. Il a fortement augmenté dans les années 80 et 90 et surtout 2000, jusque, disons, récemment, pour atteindre quand même des chiffres assez astronomiques, en moyenne sur tout le pays, de 25 sur 100 000. Ça fait énorme. Quand vous pensez qu'en France, c'est à peu près 2 sur 100 000. Hein, ça vous donne à peu près une idée. Cela veut dire que dans certaines régions, il atteint 100 à 150 pour 100 000. C'est une catastrophe. Ceci dit, depuis deux ans, le taux d'homicide a légèrement baissé. allégèrement agressif. Ça ne veut pas dire que les problèmes sont résolus, loin de là. Mais ces taux d'homicide sont le reflet aussi d'une corruption très très élevée, parce que corruption et homicide vont généralement, violence, vont généralement de pair. Donc il y a des pratiques à l'heure actuelle au Mexique qui sont assez surprenantes, des institutions qui ne fonctionnent pas, qui attiennent jusqu'à la présidence de la République, jusqu'à l'épouse du président de la République. Il y a eu d'énormes scandales et pour la première fois, pas seulement au Mexique, mais dans de nombreux pays latino-américains, on assiste à des mobilisations contre la corruption.
Alors, ce qui est nouveau aussi, Pierre Salama, c'est évidemment la nouvelle donne, la relation aux États-Unis et donc le président Trump. Là, ça change beaucoup de choses.
Ça change, aujourd'hui. Ça pourra changer beaucoup de choses. Nous sommes dans une situation un peu complexe dans la mesure où le président actuel, Peña Nieto, est à sa cinquième année de mandat. Les mandats durent 6 ans au Mexique. Il n'a de moins en moins de pouvoir, si je puis dire, puisqu'on prépare sa succession. Et de toute manière, c'est une présidence faible, de manière générale. Elle est encore plus faible aujourd'hui. Ce qui fait que la réponse qu'il donne n'est pas à la hauteur de l'attaque qu'il subit de la part de Trump. J'en veux pour preuve que le ministre de l'économie a démissionné après la visite de Trump au Mexique, et surtout le président de la Banque centrale vient de déclarer qu'il quittait ses fonctions pour aller à la Banque des règlements internationaux dans quelques mois. Donc on a l'impression, et c'est ce qui ressort dans la lecture des journaux, que, excusez l'expression, les rats quittent le navire. Donc le Mexique est dans une attitude face à Trump, nous allons négocier sans, on ne sait pas de ce sur quoi ils vont négocier.
Sans sans doute stratégie, ni temps devant
sans
soi.
Sans aucune stratégie, et je crois que ce qui ressort des discussions que j'ai pu avoir au Mexique récemment, c'est qu'il n'y a pas de contre-attaque, quelque chose de solide qui se met en place de la politique de Trump aujourd'hui.
Alors, il y a deux gros dossiers, évidemment, parmi d'autres, avec les États-Unis. C'est un, évidemment, le fait que Trump lutte contre les délocalisations dans l'industrie, notamment automobile, et le Mexique fabrique beaucoup de véhicules, notamment de voitures légères. Et d'autre part, il y a la question de l'ALENA, c'est-à-dire l'Association de libre-échange nord-américain, qui unit le Canada, les États-Unis et le Mexique depuis 88 pour le Canada, si mes souvenirs sont bons,
85.
Et depuis 94 pour le Mexique.
En fait, non, c'est depuis 85. Hein. Ça fait depuis très très longtemps.
L'association de libre-échange avec le
c'est
Canada.
Très très longtemps. Ce que vous dites est tout à fait exact. C'est un très gros problème. C'est un très 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 gros problème pour le Mexique, mais aussi pour les États-Unis. Car le Mexique est véritablement imbriqué à l'heure actuelle avec les États-Unis. C'est-à-dire ce qui s'exporte du Mexique est fait pour partie aux États-Unis. Et donc, par conséquent, s'il y a des difficultés accrues du côté des exportations, cela signifiera des problèmes aussi accrus du côté des exportations américaines vis-à-vis des États-Unis. Mmh. D'ailleurs, les économistes commencent déjà à faire une carte des effets que pourraient avoir des mesures de Trump contre les exportations mexicaines aux États-Unis. Ça, c'est le premier grand point. Le second grand point aussi, c'est que le Mexique sert de plateforme pour des entreprises nord-américaines à l'heure actuelle, pas seulement pour exporter aux États-Unis, mais pour exporter tout simplement ailleurs dans le monde, et notamment dans le secteur automobile, pour une raison très simple, c'est que le Mexique ne coûte pas cher, la main-d'œuvre ne coûte pas cher, et surtout le Mexique a obtenu des accords de libre-échange avec nombre de pays, et donc ça vaut la peine pour les entreprises nord-américaines de travailler au Mexique. Je crois que là, maintenant, ça va devenir un problème à l'intérieur des États-Unis, à savoir quel va être le poids, l'efficacité des lobbies exportateurs aux États-Unis face à la nouvelle politique de Trump. Je ne pense pas que le donnant-donnant réduction de l'imposition sur les bénéfices puisse être suffisant pour combler ou atténuer ces problèmes. Aujourd'hui, les Mexicains dénoncent une politique de copain-copain. Copain-copain, c'est-à-dire chronique capitalisme, le capitalisme des copains, si vous voulez. Et ce que pratique avec ses tweets, semble-t-il, Trump, c'est « je vous accorde tel avantage si vous délocalisez ou relocalisez, etc. » Donc on a une situation qui est un peu bizarre à l'heure actuelle, et je crois que l'histoire n'est pas terminée, à mon avis.
D'autant plus que Trump a dit souvent tout et son contraire d'une façon très impulsive.
Oui, mais je pense qu'on est en point de rupture dans les relations, parce que ça s'inscrit de toute manière depuis 2 ans, 3 ans, dans ce qu'on peut appeler une déglobalisation. C'est-à-dire un ralentissement de l'essor des exportations de marchandises, et surtout de marchandises, pas tellement les services de par le monde. Et donc, je crois qu'on est une sorte de turning point. Ce qu'il y a, c'est qu'il accentue très rapidement ce turning point. Ce turning point, il s'explique par divers facteurs, notamment le refus de plus en plus déclaré des gens contre cela et les nouvelles technologies.
Pierre Salama, spécialiste notamment des pays émergents et de ceux de l'Amérique latine, universitaire. franceculture.fr pour écouter l'émission, la télécharger. Et nous nous retrouvons bien sûr demain à 6h45.
Merci Thierry Garcin.